Artemis, alors quand je regarde, il y a un bouclier, sur le bouclier, il y a marqué Quis ut Deus. Mais enfin, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Pour comprendre cette histoire, cette histoire extraordinaire, l'histoire dans la création de l'humilité a commencé avec Saint-Michel Archange. Il ne faut quand même pas l'oublier. Tout a commencé avec Saint-Michel Archange pour l'humilité. Saint-Michel Archange a été humble avant qui que ce soit, avant Noé, avant Adam, avant Abraham, avant Isaac, avant Jésus, avant l'Immaculé, le premier. Donc c'est toujours important les premiers, parce que c'est vraiment le saint, enfin c'est un ange, hein, remarquez bien. Donc, mais c'est beaucoup plus difficile pour un ange d'être humble que pour un homme, parce que l'ange, lui, n'a aucune pauvreté. Donc tous les préliminaires dont nous avons parlé n'existent pas pour lui. Un ange est dans un silence total, une obéissance immédiate, prompte, joyeuse, ailée, libre, omniprésente, toute puissante, féconde, lumineuse, spirituelle. Pardon ? Tout ça, c'est inné. C'est pas acquis, c'est inné. Chez l'ange, c'est inné. Mais l'humilité, elle, n'est pas innée. L'humilité s'obtient à force d'obtenir, à force de l'enraciner par des actes. Et c'était précisément la chose de Saint-Michel Archange, c'est que lui, Michael, qui est comme Dieu? Vous voyez que l'humilité n'est pas quelque chose qui se limite à mon rapport avec moi-même, mon rapport avec autrui. Si je n'ai pas trouvé au fond de moi, à travers ma pauvreté et à travers l'appauvrissement que les autres m'apportent par leur seule présence, je ne vois pas très bien comment peut naître l'humilité uniquement avec ça. C'est impossible, évidemment. Et si on essaye d'être humble uniquement en raison de ce qu'on est pauvre et en raison de ce que les autres m'appauvrissent, mais au bout d'un certain temps, je vais évidemment étouffer. Je vais littéralement pourrir sur place. Et ma vie sera forcément une vie de malheur. Il faut bien sûr que je trouve concrètement à travers ça, à travers l'obéissance, le silence, la pauvreté qui est la mienne et la louange d'être ainsi, la gratitude d'être ainsi, le bonheur d'être ainsi, le bonheur d'exister. Finalement, eh bien, trouver la paternité de Dieu. Et c'est sûrement le premier degré d'humilité basé là-dessus et basé sur ce fait que à un moment donné, grâce à cet état de disponibilité, de pauvreté, grâce à mes péchés, grâce à mes failles aussi, quelquefois, grâce à ce fait que les autres qui sont autour de moi sont au-dessus de moi, sont aux côtés de moi, sont tout le temps présent, il m'enveloppe tout le temps, continuellement. À cause de ça, je suis bien obligé, si je veux atteindre l'humilité, d'échapper, si je puis dire, à ces forces uniquement humaines de la création. Je m'aperçois bien que c'est cette harmonie, si je puis dire, qu'il y a jusque avec les profondeurs de moi-même dans ma pauvreté, ne suffisent pas. Ça ne peut pas me nourrir, ça. L'humilité non plus ne me nourrit pas. Pourquoi l'humilité? Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est une richesse. Ce n'est pas une pauvreté, l'humilité. L'humilité, c'est une richesse. Il faut que je trouve d'abord ma pauvreté. Et une pauvreté, c'est vraiment quelque chose qui est cassé en moi. Quelque chose qui ne marche pas. Et qui fait que je ne suis pas... Voilà ce que je vaux, vous voyez. Je suis là devant moi-même et je dis, ben voilà ce que je vaux. Ben, je vaux finalement... Mes deux ailes sont cassées. Je n'ai pas la puissance michaélique. Sûrement pas. Je n'ai pas la puissance michaélique. Je n'ai pas la puissance du verbe incarné, sûrement pas. Mais néanmoins, grâce à tous ces préliminaires que nous avons vus, qui sont des préliminaires tout simplement de transparence avec soi-même, de simplicité avec soi-même. On accepte simplement de s'arrêter, hein, on dit bon, je suis désobéissant, je suis capricieux, je suis contentieux, je suis bavard, bref, je suis, on peut faire la liste, je suis tout ça, je suis bon. Au bout d'un certain temps, je me dis, c'est bien, dans la plus grande simplicité, je m'arrête, je cesse, c'est-à-dire j'accepte de faire une rupture avec ce mouvement continuel qui me met en dehors du silence, en dehors de l'obéissance, en dehors de la réalité et en dehors de ma pauvreté, en dehors des autres aussi. C'est au fond les cinq grands aspects qu'on a vus. J'accepte de cesser ce cycle continuel. Je suis très frappé, c'est pas pour plaisanter, d'ailleurs je dis ça, parce que je suis très frappé, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours un peu souffrir. Mais chaque fois que je prends la voiture pour aller célébrer la messe le dimanche, pour aider le curé, je vois des dizaines de bons hommes qui font du vélo. Ah, ils font des vélos. Ah, ça, la pédale, ça, ils connaissent bien. C'est très à la mode, ça. Très à la mode. Tous azimuts, d'ailleurs. Et là, je sais pas, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Et les deux roues du vélo, c'est ça, vous voyez. Les deux roues du vélo, cette espèce de... Non, faut arrêter ça tout de suite. Faut arrêter de s'isoler, de s'endurcir. Faut arrêter de faire de sa vie une espèce de tournage, si vous voulez, dans le vide, accepter de ne plus soliloquer, accepter de s'arrêter, accepter d'habiter la terre, d'habiter notre terre. Bon, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez simple. J'ai presque même un peu honte de vous l'avoir dit, parce que... Je sais pas, je veux pas vous faire perdre du temps non plus, puis c'est des choses que vous savez bien. Et donc, il faut quand même s'en faire une règle absolue. Je crois que la règle, il ne faut pas se la présenter comme quelque chose qui se présente à nous de l'extérieur, ça vous le savez bien, c'est quelque chose qui jaillit en dessous de nos pauvretés. Et c'est là qu'il faut découvrir la règle de Saint-Benoît. C'est là qu'il faut la découvrir. Il y a au fond de nous une terre profonde où sont inscrits en puissance les 12 degrés d'humilité. Ils attendent qu'une seule chose, comme des enfants qui crient, c'est de pouvoir se faire entendre. Obéissance immédiate, t'as vu ? Toc, toc. Et donc, on va regarder, si vous voulez bien, les degrés d'humilité sans aucune prétention. Vous allez voir que ça n'a pas... C'est l'avantage de nos trois jours de cette année, c'est qu'on ne va pas apprendre grand-chose, vous savez. On ne va pas apprendre grand-chose, on ne va pas apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sera pas très nourrissant pour l'intelligence, pour la curiosité, pas du tout. Mais ce sera intéressant pour Dieu. C'est vrai, les autres années, si vous voulez, on a regardé comment vivre du sacerdoce royal, les pièges, etc., les voies d'accès, la progression, l'efflorescence, la communication, la fécondité, la res, le fruit, la fécondité, les effets, la matière, la forme, la mise en œuvre, la mise en actuation. Oh, on est sorti beaucoup moins idiot qu'on était rentré. Tandis que cette année, on va sortir beaucoup plus bête. Quand on a fait l'autre année la chose sur le mystère de la confession, oh là là, avant on vivait bêtement de la confession. Tandis que là on était sorti en disant maintenant ça y est c'est formidable, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais compris ça. Je ne veux pas mourir idiot. Tandis que cette année, ce sera ascétique cette année. soit ascétique, parce que pour l'intelligence, on va rien savoir de nouveau, rien. On va découvrir au fond de notre cœur une règle que Dieu a marquée le jour où il nous a fait commencer d'exister. C'est une règle d'amour, c'est une règle de la vie spirituelle dans le corps qui a été donnée, qui nous a été donnée au départ par l'amour du Père et de la Mère. Dans l'amour du Père et de la Mère, un corps s'est constitué et une marque a été donnée, image, ressemblance de Dieu, brûlante, c'est la règle des degrés d'humilité. Mais c'est une règle vivante. C'est une vie qui ne demande que jaillir comme ça. Ah donc, ces deux premières méditations que nous avons faites jusqu'à maintenant, c'était pour arrêter de faire du vélo. Je commence à en avoir marre de l'homosexualité. Il y en a marre. C'est une maladie. C'est une maladie. Je n'hésite pas à le dire. Et tous ces hommes qui font de la bicyclette le dimanche matin au lieu d'aller à la messe, c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est une impiété. C'est un sacrilège. C'est une ordure. À chaque coup de pédale, ils salissent la nature. Et le jour du Seigneur est consacré à Dieu. Et on est dans une société où on ne voit même pas l'évidence. Qui est comme Dieu? Enfin, que tu fasses la bicyclette là. Et alors, un effort prodigieux. Ah, ils sont de la contention, hein. Et ça transpire, ça transpire. C'est là qu'on s'aperçoit que nous sommes devenus cinglés. Cinglés. Ah, mais je ne veux pas trop m'énerver parce que sinon je vais devenir pas trop... Je ne vais pas réussir à rentrer dans le premier degré d'humilité. Et je ne peux pas vous communiquer ce que je n'ai pas. La deuxième, effectivement, remarque que je tenais à vous faire, parce que j'avoue que je crois que c'est assez exact, donc je me dois de le faire, c'est que je me suis dit, bon, c'est Léon hein, qui m'a dit de parler de l'humilité, c'est normal, c'est bon, on parlait de l'humilité, très bien, mais je me suis dit, moi je peux pas faire ça, puisque j'ai un grand principe, et vous le savez bien, et c'est un principe qui est dans la règle, de la communauté, c'est qu'on ne peut pas communiquer quelque chose qu'on ne vit pas actuellement. Enfin, je me dis donc ça, cette année, ce sera évidemment très très difficile parce que arriver à communiquer quelque chose qu'on ne vit pas, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne suis pas très humble. Hein. Bon. C'est vrai, vous savez, je ne suis pas très humble. D'ailleurs, vous n'avez qu'à demander à mes supérieurs et mes frères, vous verrez. Hein, je crois que c'est l'unanimité, si vous voulez. Bon. Donc, de ce côté-là, faut accepter. Moi, j'accepte tout à fait de ne pas être humble, si vous voulez. Non, je ne l'accepte pas. Je voudrais être humble. Je voudrais bien être humble. Mais je reconnais que j'ai du mal. Bon. Donc, je suis un petit peu handicapé pour vous en parler. C'est pour ça que je vais m'appuyer quand même sur Saint-Benoît. Et ce sera un petit peu la deuxième raison pour laquelle. Je vous demande quand même, de l'indulgence, et puis que, au moins, à travers les paroles que Saint-Benoît nous dira, essayez de trouver comment ces paroles, donc, sont là, en dessous de nos pauvretés, de nos propres pauvretés, et au fond, qu'on découvre ensemble, vous et moi, ces paroles fulgurantes de Dieu dans notre corps spiritualisé par l'acte créateur de Dieu. Qui est comme Dieu? C'est ça, vous voyez? Saint-Michel Archange, donc c'est celui qui a dit, de manière innée, spontanée, immédiate, mais enfin, qui est comme Dieu? C'est très extraordinaire. Pour rappeler pourquoi, comment ça s'est passé avec Saint-Michel, je veux bien faire une toute petite parenthèse, n'est-ce pas? Parce que le premier degré d'humilité correspond justement à cet acte angélique. Premier degré d'humilité, c'est ça. C'est de faire spontanément, initialement, de manière fulgurante, totale, complète, définitive, perpétuel, si je puis dire, un cri qui traverse, qui va traverser, il sera un seul cri, mais il va traverser toute notre existence jusqu'à notre mort. C'est à ça qu'on reconnaît ce cri, d'ailleurs. Mais ce cri de Saint-Michel-Archange, celui qui a vraiment déchiré quelque part, déchiré toute réaction contraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Dans le principe, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu a dit... Pardon. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et chaotique. Et les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu survolait, planait, vibrait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et ici, on continue, il y eut un soir, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et si je m'arrête un tout petit moment, je crois que c'est bien de se rappeler ça, parce que, quand même enraciné, quand même, degré d'humilité, quand même, dans cette réaction angélique, vous savez bien que ce premier passage de la Bible concerne la création angélique. D'après la tradition de Moïse, quand Dieu créa le ciel, il créa le monde angélique. Il créa les anges qui étaient des anges diaphanes, pur esprit, contemplation pure, capables de recevoir toutes les communications infuses de Dieu. Toute la connaissance même de Dieu pouvait passer à travers leur intelligence immédiatement. Mais il y avait des anges suprêmes au-dessus d'eux, les archanges, puis des anges archi-suprêmes, par-dessus des archanges qu'on appelait les principautés, puis encore des hiérarchies tout à fait extraordinaires qu'on appelle les puissances capables de rentrer dans toutes les fréquences cosmiques de la création, de tous les temps, de tous les lieux, les traversant, les habitant, faisant les relations, tout en habitant en même temps et simultanément les pensées infuses de Dieu. Il y avait également les vertus qui, au-dessus des puissances, étaient capables d'illuminer, de qualifier, d'adoucir, d'aménager. Enfin, il y avait au-dessus d'eux des anges beaucoup plus considérables, qu'on appelle, comme vous le savez, les anges des dominations, qui étaient des lents anges qui faisaient vraiment la frontière, le passage de l'introduction de toutes les gloires de chaotiques de Dieu dans la création et de toutes les beautés diaphane de l'univers à l'intérieur des processions de la très sainte Trinité. Et il y avait encore au-dessus des hiérarchies beaucoup plus considérables. Quand je dis il y avait, il y a. Dieu les a créées, elles y sont. Et elles y sont encore. Quand on pense qu'ils sont là, par myriades autour de nous, suspendus aux quelques croyants qui restent sur cette terre. Parce qu'il y a au-dessus des dominations qui sont des anges sacerdotaux et médiateurs, il y a les trônes. Et parmi les trônes, il y avait celui qui était le trône de la lumière unifiante de Dieu. Et les trônes étaient porteurs de tous les attributs divins. Le trône le plus considérable. Je crois que le trône que Dieu a pensé en premier, c'est le trône de la simplicité de Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça, que le premier attribut divin, le premier qu'on rencontre lorsqu'on est spirituel, la première qui apparaît quand on touche l'existence de Dieu, c'est qu'on touche sa simplicité. C'est la première chose qu'on voit, c'est la première chose qui nous attire, c'est la première chose qui nous touche, c'est la première chose qui nous transforme. Cette simplicité éternelle, absolue, substantielle et actuelle de Dieu. Le trône de la perfection de Dieu, le trône de la bonté de Dieu, toute la bonté de Dieu. Vous vous rendez compte, ces anges-là, des trônes, quelle puissance, quelle extraordinaire extension, intensité de vie qu'ils ont, puisque à eux seuls, ils peuvent contenir un attribut de Dieu tout entier. Parmi eux, il y a donc celui qui est le trône de la lumière. C'est Lucifer. C'est extraordinaire, ce type-là. Et puis, au-dessus encore. Comme si ça ne suffisait pas, parce que Dieu est un avec toutes ses qualités rayonnantes qui font toute son unité intérieure, et toute sa vie, et toutes ses qualités, toute sa profondeur intérieure, toutes ces profondeurs qui sont contenues, reçues et vécues par chacun des trônes. Mais comme les profondeurs de Dieu sont immenses, multiples, infiniment indénombrables. Et pourtant, chacune correspond exactement à l'autre. Il y a au-dessus quelque chose de plus grand encore. C'est les relations qui s'établissent, non pas entre les profondeurs de Dieu et Dieu lui-même, mais entre Dieu et Dieu lui-même. Et ces relations sont des relations de procession. Dieu est un, mais dans son intimité, il procède sans cesse. Et cette procession est une procession d'engendrement, c'est une procession d'émanation, c'est une procession, vous voyez bien, quand Dieu devient Dieu, continuellement. Quand Dieu devient Dieu, Dieu devient continuellement Dieu. Éternellement Dieu devient Dieu. Et s'il devient Dieu, il faut bien qu'il y ait quelque chose en Dieu qui fasse que Dieu devienne Dieu. Et il y a bien quelque chose en Dieu qui fait que Dieu est devenu Dieu. Et qu'il ne cesse encore de devenir Dieu. Et il y a quelque chose en Dieu qui fait qu'il devient Dieu. Et ceci, c'est de la lumière personnelle. Et ceci, c'est à travers, quelque part, pour que Dieu devienne Dieu, dès qu'il devient Dieu, il n'est plus celui qui fait devenir Dieu. Et Dieu, dès qu'il est Dieu, il se donne immédiatement au Père, voyez bien, et du coup le Père à nouveau le fait procéder, le Père et le Fils. Procession dans la lumière. C'est extraordinaire la vie chrétienne, je vous signale d'ailleurs tout de suite, quand vous voulez expliquer au catéchisme, puisque ici on est dans l'humilité, eh bien cette histoire étonnante de la première procession à laquelle ont accès les chérubins, qui sont encore au-dessus des trônes. Eh bien, vouloir expliquer la chose tout simple. Tu vois, mon petit garçon, ma petite fille, tu as été baptisé. Alors, puisque tu as été baptisé, tu es avec Jésus. Et puisque tu es avec Jésus, tu rentres avec Jésus dans les bras de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans l'intériorité de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans l'amour de Jésus, dans la vie de Jésus, dans les yeux de Jésus, dans les cheveux de Jésus, dans les mains de Jésus, dans les doigts de Jésus. Dans la bonté de Jésus, dans la croix de Jésus, dans les paroles de Jésus, dans la Bible de Jésus, dans les sacrements de Jésus, dans l'église de Jésus, dans le papa et la maman que Jésus t'ont donné, enfin bref, partout, Jésus est partout. Donc, tu rentres en Jésus. Et une fois que tu es en Jésus, tu montes sur l'échelle. C'est l'échelle du degré d'humilité. Tu montes sur l'échelle. Et, vous savez, il y a un toboggan là. Tu montes sur l'échelle et tu arrives en haut de l'échelle. Alors voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire sa prière? Très bien. Tu prends Jésus comme si c'était une échelle et tu montes le plus loin possible en haut de Jésus. Encore plus haut, toujours plus haut, tu n'auras jamais fini. Va te fatiguer, arrête-toi. Ça veut dire tu y es. Et quand tu es au sommet que tu es fatigué, ça veut dire si tu es fatigué, ça veut dire ça y est, c'est fini, t'arrêtes. Et bien tu rentres dans le toboggan. C'est extraordinaire les processions. Une fois que tu es en Jésus, tu es rentré au sommet de Jésus, tu es dans la procession. Jésus procède du Père. Et une fois que tu es en Jésus, vous comprenez, ça c'est extraordinaire comme prière, je trouve. Je vous le signale comme truc tout simple. Vous rentrez au fond de vous, dans vos pauvretés, vous trouvez quoi? Votre plaie? C'est une plaie vivante. Voilà, génial, le premier échelon. Et là, et avec ma plaie vivante, c'est une plaie vivante, je monte, s'il n'y a plus que Jésus, il me faut toutes les plaies du monde, toutes les plaies de Jésus, etc. Je monte de plus en plus, et là, au bout d'un certain temps, lorsqu'il n'y a plus de plaies possible, à ce moment-là, je suis au sommet, je rentre dans le Verbe de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Et je glisse délicieusement dans la première procession de la très sainte Trinité. Comme sur un toboggan. Voilà. Un acte tout simple. Rentrer sur le toboggan de la première procession de la très sainte Trinité. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Donc, je vous signale, vous pouvez très bien vous servir du petit chêne. De rentrer, vous montez en haut et vous glissez sur le toboggan. Si vous le faites avec votre corps très profond, votre terre la plus profonde, là où elle est, écartelée par la pauvreté, par l'impuissance. Et là, vous trouvez donc la présence de votre origine. Et comme le Verbe de Dieu illumine tout homme au moment où il rentre dans ce monde, vous pouvez rentrer en Jésus. Et puis en Jésus, vous montez le plus haut possible. C'est extraordinaire le mystère de l'ascension. C'est le mystère de l'ascension qui nous permet de rentrer dans les processions de la très sainte Trinité. Ce n'est pas le mystère de la résurrection. Pas l'oublier, ça. Et Jésus, il a voulu que Marie elle-même, la Vierge, elle le voit monter, emporter corporellement, visiblement dans les cieux. Monter comme ça. Hein? C'est vrai ça. Tout ça pour nous faire comprendre qu'il faut rentrer de plus en plus profondément dans les cieux nouveaux, c'est-à-dire notre terre nouvelle, celle qui est toute fraîche dans les mains de Dieu, c'est-à-dire celle qui est tout profondément enfouie au fond de nous, camouflée par l'oubli de ce que nous sommes dans l'origine. Et ceci, pour retrouver cette origine, je ne cesserai de vous le répéter, il faut habiter ces pauvretés, les connaître, les laisser prendre, s'épanouir en elles, les aimer. Et remercier Dieu de m'avoir créé ainsi, et le servir dans cet état. Et là, trouvant Jésus, trouvant la plaie vivante, brûlante, amoureuse, illuminée, qui a fait que Jésus, donc, a été broyé, déchiré, glorifié. Je pénètre plus ardemment, lui, dans toutes les blessures qu'il a subies. Et la première blessure, la première plaie à travers laquelle il est sorti, c'est la plaie de cette création tout entière. Elle a été brisée par le monde des ténèbres. Et c'est ça le mystère de l'ascension. Et là, je rentre donc avec lui dans la première procession. Je suis à nouveau engendré par le Père. Comme c'est facile, je vous assure, souvent les gens me disent que c'est difficile de faire oraison, tout ça. Mais c'est vachement facile. Vachement facile. Puisqu'il suffit de monter sur le haut du toboggan, et là, une fois que tu y es, l'avantage, c'est que un enfant, un toboggan, bon, ça dure juste 4 secondes. Tandis que ce toboggan-là, ça dure une demi-heure.
Il suffit simplement qu'au début, tu aies fait des actes de pauvreté, d'obéissance, de silence, d'abnégation, d'abandon, hein, de joie profonde, de louange, de mise en présence de Dieu. Et une fois que tu es dans les bras de Jésus, qu'il n'y a plus que Jésus, laisse aller. Une demi-heure. Et tu ne peux pas ne pas voir que tu es dans la procession de la première de la très sainte Trinité. Ça, c'est les chérubins, ça, continuellement. Des êtres de lumière, illuminés d'une lumière surnaturelle, dans une vision béatifiante qui est continuellement procédante.
Et puis enfin, il y a les séraphins, dont par humilité, je me chargerai de ne pas parler. C'est évidemment, c'est autre chose. Ça, les séraphins, c'est tellement extraordinaire. Et bon, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Dieu a créé ce monde angélique extraordinaire. Avec ses 9 hiérarchies. Et en même temps, ma terre. Il a créé en même temps ma terre. Il a créé la pensée, c'est-à-dire le monde, le ciel, le monde angélique, avec toutes ses hiérarchies, tellement porteurs en leur centre de toutes les vitalités et brûlantes intimités divines. Et puis, il a créé la terre. Il a créé ma terre. Il m'a créé. Il a créé le cosmos. Et vous savez bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, vous voyez bien ici que ça, c'était à ce moment-là. Je tiens à vous signaler avant de continuer que il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous pouvez prendre votre stylo et barrer. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que c'est pas un nombre cardinal. Oui, quand il y eut un soir et un matin, deuxième jour. Oui, c'est un nombre cardinal. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Oui, c'est un nombre cardinal. Mais le premier, non. C'est faux. Bible de Jérusalem, poubelle. Parce qu'il vaut mieux pas garder une Bible avec une erreur, puisque Jésus a dit que celui qui laisse une erreur dans la Torah sera considéré comme le plus lamentable dans le royaume des cieux. Donc je préfère pas être le plus lamentable, puisque je veux être humble. Donc, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour Echad. Un. Le jour unique. Comme Dieu est unique. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et ce jour-là est un. C'est le jour unique. C'est-à-dire le jour qui contient tous les autres jours. Ce jour qui, initialement, traverse tous les instants de toute la création, de tout l'univers, de toutes les créations du ciel, des anges, et du monde spirituel, et de la terre, c'est-à-dire du monde humain. Extraordinaire que ce monde angélique dont je viens de vous parler assiste à l'instant même de sa création, à la création de tous les êtres humains jusqu'à la fin du monde, et notamment à la mienne, évidemment. Et face à ça, eh bien, il est évident qu'il comprend immédiatement l'intention de Dieu. C'est que, évidemment, l'intention de Dieu, c'est qu'il ne peut pas épouser à l'état suprême, il ne veut pas épouser la création qu'en passant par la médiation de ceux qui sont les plus pauvres. Or, dans l'ange, il n'y a aucune pauvreté. Aucune pauvreté. Mais dans les autres, les êtres humains qui sont créés par Dieu, il y a la pauvreté. Ils sont limités par une matière. Ils sont en bordure du monde animal. Ils ont une intelligence, certes, tout à fait intact, quoi qu'il arrive, même s'il y a le péché, leur intelligence reste immaculée. Et elle ne peut jamais être atteinte par le péché, ni par les conséquences du péché. Spirituellement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais néanmoins, l'intelligence de l'homme est toute petite. Et elle dépend du corps pour pouvoir s'exercer. Elle dépend de ce qu'elle voit. Même dans les prières mystiques de l'union transformante. Ça dépend de ce que je vois, ce que j'entends. Du sens du toucher, de la caresse de mon prochain. Mon intelligence spirituelle humaine ne peut s'exercer qu'à travers les sens. Tandis que pour l'intelligence angélique, elle s'exerce par elle-même. De l'intérieur, immédiatement, totalement, sans faute, sans progression et sans erreur. Mais il a un corps, et cette pauvreté de l'intelligence dans le corps implique aussi une limite à cause du corps. Il est dans un temps particulier, Il est dans un lieu particulier. Il est dans une communauté particulière. Il est dans une famille particulière. Il est dans des limites particulières. Il est dans des caractéristiques particulières. Qui ne sont pas géniales. Qui ne sont pas géniales, il faut bien le dire. Alors, seulement, à travers ces pauvretés, vous comprenez, si Dieu nous a donné la vie à cet homme-là, à ces hommes-là, eh bien, Dieu va y mettre tout son cœur. Parce que l'homme, grâce à ça, s'il utilise son intelligence pour habiter sa pauvreté, il sera miséricordieux vis-à-vis de lui-même et il sera ouvert à la miséricorde de Dieu. Et l'amour de Dieu ne peut se conjoindre qu'à celui qui l'appelle de toutes ses forces. Et ceci ne peut se faire que par la miséricorde. Parce qu'il faut faire une différence entre la bonté, entre l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. C'est par bonté que Dieu a fait toute créature. C'est par amour qu'il a créé le monde angélique suprême, mais c'est dans la miséricorde qu'il atteint en plus tous les hommes, sans exception. Et l'ange comprend ça immédiatement, c'est que l'homme est au sommet de ce qui dans la création peut être l'objet de la captation de toute la miséricorde de Dieu, et de la diffusion de toute sa présence et de toute sa gloire, jusque dans le monde angélique lui-même. C'est-à-dire que les anges ont besoin de nous pour être incorporés à la Jérusalem céleste. Et il y a évidemment, du côté d'un certain nombre, qui sont dans les voies suprêmes dont je vous ai déjà parlé, un petit ennui en disant « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? » Attends, cette espèce de... Là ? Cette espèce de vache qui n'arrête pas d'être paresseuse, cette espèce de crapaud, désobéissant et purulent, hein? Comment? Et il faudrait que je dépende de ça. Il faudrait que la miséricorde, c'est-à-dire la glorification dans la béatitude, qui dépasse toutes mes richesses et toutes mes limites de créature, c'est ça la miséricorde. Il faudrait que ça passe par la miséricorde suprême, c'est-à-dire la plus grande pauvreté, c'est-à-dire par l'homme. Ah non ! Et c'est là qu'il y a un certain nombre donc, de libertés angéliques qui instantanément refusent d'obéir aux hommes, d'obéir à Dieu, quoi. Parce qu'obéir aux hommes, obéir à Dieu, c'est kif kif bourrico, quoi. C'est exactement la même chose. Dieu seul obéit. Vous pouvez le constater, puisqu'il suffit que vous ameniez un petit enfant à l'église, et hop, vous lui versez de l'eau, vous dites au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, hop, Saint-Esprit, je donne le baptême immédiatement, le Seigneur, il obéit tout de suite, obéissance immédiate et joyeuse. L'Eucharistie, ceci est mon corps. Un pauvre type, bouffi d'orgueil, rejeté par les siens, à juste titre. Il dit, ceci est mon corps, tout de suite, là, immédiatement, et joyeusement. Dieu se précipite pour habiter totalement là. C'est extraordinaire, extraordinaire. Dieu seul est obéissant. Mais il y a des anges donc qui n'ont pas voulu obéir. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est dit, Dieu créa la lumière, etc., etc. L'esprit était là, plané sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Voilà. Et la lumière soit, la lumière fut, c'est quoi? Mais justement, c'est cette illumination par le Verbe de Dieu, de toute la création, ange, cosmos, homme, à travers son intention, de tout récapituler dans la gloire, en passant par les plus grandes pauvretés, quelles qu'elles soient. Cette lumière de la foi qui est proposée immédiatement et totalement, regardez-nous comme il faut 50 ans avant de comprendre ce que la foi peut impliquer. Immédiatement tout, tout, tout ce que les chrétiens ont compris, tout ce que les chrétiens ont compris pendant des millénaires de réflexion, tout de suite, ils comprennent tout. Et il y en a un certain nombre qui disent non. Alors c'est pour ça que la Bible n'en parle pas, puisque la parole de Dieu est créatrice, donc les ténèbres n'apparaissent pas. Mais on voit quand même que Dieu vit que la lumière était bonne, c'est vrai. Mais Dieu fait quand même une séparation, et il sépare la lumière et les ténèbres. Et voilà que les ténèbres sont là. Les ténèbres, c'est ce monde ténébreux, extraordinaire, de la prévarication, de la révolte. Au milieu de tout ça, un tout petit ange. Enfin, archange, quoi. C'est archange. Saint-Michel, qui est là, avec deux... Il adore. Attention, vous voyez bien que Saint-Michel l'Archange est présent du début jusqu'à la fin de la création, dans cet acte unique. Il est présent dans... Il est fixé sur l'acte créateur de Dieu au moment où il me crée, moi, et chacun de ceux qui sont autour de moi. Et au milieu de tout ça, cet ange extraordinaire, et en un temps très simple, eh bien, à travers la lumière qui est donnée à tous ceux qui sont avec lui, cette lumière de la foi, de l'intention divine dans son Verbe, de permettre la glorification dans le Verbe de Dieu de tout le cosmos, de toute la création, à travers les plus grandes pauvretés, essentiellement parce que c'est par miséricorde que se fera la gloire de Dieu, parce que Dieu, le mystère profond en Dieu, c'est celui de la miséricorde, parce que c'est cette miséricorde qui permet aux trois personnes d'être en même temps trois et en même temps un. C'est la cause efficiente, comme on dit en philosophie, en théologie, la cause efficiente du mystère de la très sainte Trinité, la miséricorde. Avant même la création du monde, la miséricorde, c'est pas parce qu'il y a eu le péché, attention. Qui constitue Dieu dans l'unité et dans la Trinité dans l'unité. C'est pour ça que le mystère de l'humilité, de l'obéissance, de la pauvreté sont quelque chose de si fort pour Dieu, de si puissant dans l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, cet ange, cet archange Saint-Michel, ben, il reçoit cette lumière. Et à travers cette lumière, ben, il voit ce que Dieu veut faire, habiter à travers son acte créateur et paternel toutes les pauvretés de tous les temps, de tous les lieux, et c'est là qu'il tombe en pâmoison et en admiration. Et qui comprend que Dieu est miséricordieux en lui-même, avant même la création du monde, qui est comme Dieu et il l'adore. Et il l'adore. Cet acte d'adoration qui met Saint-Michel Archange, voyez, immédiatement et pour tous les temps, pour tous les lieux, dans un acte de ferveur qui traverse non seulement tous les temps et tous les lieux, non seulement toutes les situations humaines. L'arc, le cri de Saint-Michel Archange traverse toutes nos situations humaines. On est porté par le cri de Saint-Michel Archange. On est consacré déjà, avant même d'avoir existé, dans le cri de Saint-Michel l'Archange. C'est extraordinaire, c'est pour ça qu'on le présente avec des ailes, d'ailleurs. Qui est comme Dieu? Ben, voyez, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce qu'il a fait. Il l'a fait immédiatement, il l'a fait instantanément, il l'a fait perpétuellement. Et il n'a pas traversé seulement tous les temps et tous les lieux. Pas seulement toutes les pauvretés, toutes les situations humaines, et tout ce que nous sommes, tout ce que nous... Pas seulement ça, mais il a traversé aussi toutes les splendeurs de toutes les hiérarchies angéliques qui étaient au-dessus de lui. Et on a vu toutes les hiérarchies angéliques dire « Que celui-ci qui vient d'en bas, c'est Saint-Michel Archange, qui passe devant !» C'est extraordinaire, ça. Moi, je vois... L'étonnement devant l'acte d'adoration et de la crainte de Dieu, de Saint-Michel Archange, des dominations. Il dit, mais il est passé devant. C'est extraordinaire, il est passé au-devant des trônes, il est passé au-devant des dominations, des principautés, donc des vertus, des puissances. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette lumière de la foi.
Il a été plus loin que toutes les puissances de la nature angélique elle-même. Il a saisi immédiatement toutes les puissances lumineuses de la foi. Il s'est accroché à elle. Il a vu qu'elle allait habiter toutes les pauvretés les plus suprêmes, les plus infâmes, frères et sœurs, les plus infâmes de la terre. Et il s'est accroché au Verbe incarné avant même qu'il ne s'incarne. Alors, on a vu l'archange Saint-Michel dépasser toutes les hiérarchies angéliques. C'est pour ça que c'est étonnant, c'est un archange. Hein? Et il est devenu, à l'instant même de sa création, face à la lumière de l'épreuve de la foi, un des sept anges de la face de Dieu. Un des séraphins, n'est-ce pas? Et même le séraphin principal.
Ah, vous me direz, qu'est-ce que c'est une histoire d'orange, là? Non, c'est l'angéologie du Moyen-Âge, ça. Dans une cathédrale, ça. C'est, autant faire du vélo.
Ben non. C'est la tradition de la révélation. C'est Dieu qui nous l'a dit. Et voyez, le premier degré d'humilité, il consiste simplement à trouver en dessous de toutes les conditions dans lesquelles nous nous mettons pour vivre enfin en tant qu'être humain créé par Dieu et que nous avons vu dans les deux méditations précédentes, de trouver enfin cette lumière, cette marque du Verbe de Dieu, puisque quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans le Fils bien-aimé. Le Verbe de Dieu est venu illuminer tout homme au moment où il est venu en ce monde. Voilà ce que dit Saint Jean. C'est quand même assez extraordinaire. Et à travers ça, s'accrocher à cette illumination du Verbe de Dieu qui est là, qui illumine tout homme au moment où il vient dans ce monde. Et là, je trouve une adoration. Une crainte de Dieu. Le premier degré d'humilité de Saint Benoît, je peux vous le lire, consiste, vous allez dire, ça, on va rebaisser un petit peu, mais enfin, c'est Saint Benoît, dans le point de vue réaliste, n'est-ce pas, à fuir totalement les négligences et à se souvenir continuellement de ce que Dieu nous a prescrit dans notre instant primordial. C'est extraordinaire, ça, voyez. Finalement, c'est très fort. Je ne sais pas si vous sentez à quel point c'est fort, ça, de dire que le premier degré d'humilité consiste à s'accrocher dans l'amour de nos pauvretés, au fond même de notre être, où le Verbe de Dieu vient nous toucher, c'est-à-dire dans le fondement le plus enraciné de nos pauvretés intérieures. Ce souvenir là de cette marque du Verbe de Dieu, puisque le Verbe de Dieu illumine tout homme lorsqu'il vient dans ce monde, à l'instant où il vient dans ce monde, et se rappeler donc toujours de ce que Dieu m'a prescrit dans cet instant primordial. Il m'a prescrit quelque chose, voyez bien, en me le donnant. C'est une prescription, vous savez, c'est comme certains médecins, ils vous prescrivent des trucs et puis il faut que vous achetiez à la pharmacie. Tandis que Dieu, il ne fait pas des prescriptions de ce genre. Lui, il prescrit, il donne en même temps. Pas besoin d'acheter. C'est donné. C'est là. Ça attend. 45 ans, pas trop tôt. Il faudrait peut-être s'y mettre. Ah, retrouver cette image et ressemblance de Dieu. Laquelle est illuminée par le Verbe de Dieu qui passe continuellement et là heureusement sous la protection de l'adoration spirituelle, je peux rentrer dans la crainte de Dieu. Le premier degré d'humilité consiste dans la crainte de Dieu, qui consiste à se souvenir de cette prescription primordiale dans laquelle j'ai été enthousiasmé au départ. Et dans laquelle je suis encore enthousiasmé. Mais je ne veux pas pénétrer dans cet enthousiasme. En theosiasmos. haine, dedans, théosiasmos, Dieu théos, n'est-ce pas? C'est à l'intérieur de Dieu l'éclatement. Un enthousiasme qui n'est pas religieux, ce n'est pas un enthousiasme, c'est une illusion. Mais je ne veux pas rentrer dans cet enthousiasme initial qui est toujours là, toujours là. Et mon plus grand enthousiasme, c'est d'être pauvre. C'est ça le critère de l'enthousiasme. Et la crainte de Dieu, vous sentez bien que si la crainte de Dieu, elle est là, c'est un don extraordinaire de Dieu. Évidemment, on va voir dans l'Écriture que, on va voir une chose, c'est que c'est saint Augustin qui fait remarquer ça. On voit que la crainte, Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, comme ceux qui sont comme ci, comme ça, n'est-ce pas? La crainte de Dieu, il ne vous a pas donné un esprit de peur et de crainte. Et puis dans d'autres passages de l'Écriture, notamment dans les psaumes, il est écrit que la crainte de Dieu est une crainte perpétuelle et qui ne s'efface pas. Alors, et c'est un don en plus. Et oui, pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, elle fait qu'on a peur, celle qui s'efface, celle qui disparaît, celle dans laquelle on n'est plus, si on commence à rentrer dans le premier degré d'humilité. C'est une crainte servile. C'est une crainte d'esclave. On a peur de rentrer dans la Genève, dans la géhenne, dans le Tartare. Sans quoi je vous comprends très bien. On a peur. On a peur d'un Dieu, que Dieu nous châtie. Voyez bien. Regardez cette peur panique d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens, quand j'ai regardé plusieurs témoignages de bouddhistes, de tibétains, etc., et de tas de chrétiens, cathos, etc., plein. Notamment les chrétiens qui disent qu'ils sont croyants et non pratiquants, tous, qu'est-ce qu'ils vous disent? Souvent, en tout cas, mais les bouddhistes de manière explicite, et les tibétains encore mieux, ils disent « la religion de la faute, la culpabilité, je suis enfin débarrassé ». La crainte servile, ça les gêne. Hein? Ils ne sont pas dans la crainte. Or, c'est cet état où je suis pauvre, mais je suis dans cette pauvreté, mais cette pauvreté engendre en moi des luttes contre la volonté de Dieu. Ça, je ne veux pas le voir. Et ce que je ne veux pas, ce que je veux, c'est pas du tout être dans l'enthousiasme de Dieu, dans l'enthousiasme de ma présence à l'intérieur de Dieu, malgré mes pauvretés. Pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est être libéré de la conscience de ma pauvreté et libéré du sentiment de culpabilité et libéré de cette lumière du Verbe de Dieu qui montre que je ne suis pas fils de Dieu. Et voilà ce qu'on cherche, de fuir l'état de culpabilité dans une religion qui me met dans une espèce de plasma anonyme. Où on se réalise, voilà, le suprême de l'ego possesseur, jouisseur et dominateur. C'est quand ça va jusque-là. L'ego possesseur, possesseur de moi-même, dans toutes mes richesses, jouisseur pour jouir de tous les aspects positifs de ce monde, puisque je ne suis que positif, et dans la positivité des énergies, je me répands et je me réalise. Et dominateur du cosmos, car ainsi je suis roi, et je suis ainsi entièrement englouti dans la bodéité immaculée, diaphane, d'un plasma qui correspond aux origines et à la perfection de la bodéité. Et là, surtout, rester un quart d'heure, tranquille, sans bouger. Pendant ce temps, tu ne vois pas tes pauvretés, pas du tout. Tu t'es noyé dans un truc. Et un jour, tu rends compte que tu t'identifies, grâce à Dieu, à l'Antichrist. Le monde d'aujourd'hui, en voulant rejeter le Rédempteur, en voulant rejeter ce fait qu'ils sont pécheurs, pauvres, lamentables, et que c'est leur responsabilité, va se trouver confronté à une mystique où il s'engloutira éperdument et il va se rendre compte qu'il est lui-même participant directement à l'Antichrist. Il fait partie du corps, du cœur et de la matière même. C'est la main de l'Antichrist. Et lorsqu'il le réalisera, là, il réalisera peut-être qu'il est dans la pauvreté. C'est pour ça que Saint-Michel Archange dit, mais c'est extraordinaire que Jésus, à la fin du monde, passe à travers ça comme verbe de Dieu pour faire miséricorde et pour faire que tous ces antichrists s'effondrent en se réjouissant d'avoir été aussi nuls. Mais voyez bien qu'il y a la crainte de Dieu, elle consiste en ceci, elle consiste à avoir peur de toutes les conséquences de nos actes responsables et coupables. Et c'est sûr que nous aurons à rendre compte de toutes nos paroles inutiles. Ah, que vous soyez passé par la confession ou pas la confession, ça ne change rien. Rien. Nous aurons à rendre compte de toutes nos paroles inutiles. Et évidemment, alors, on a peur du tartare. Bon, ici, là, il faut relire, bien entendu, l'épître de Saint-Pierre. L'épître de Saint-Pierre, c'est merveilleux. Pour rentrer dans l'humilité, ça, il n'y a rien de mieux. Alors là, on sait où on est. On sait. On sait où on va. Si on continue comme ça, on sait où on va. Très, très bien. Eh oui. Est-ce que j'ai besoin de vous le lire? Parce que vous le connaissez par cœur, à fort, cette épître de Saint-Pierre. Oui, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a plongés tout entiers dans le tartare, dans le feu, n'est-ce pas, livrés aux abîmes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, le monde ancien et périmé. Oui, donc s'il a fait ça, si à titre d'exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre, s'il a livré Lot le juste, qui affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels, car cet homme, ce juste plein de grâce, habitait au milieu d'eux, torturait jour après jour son âme de juste plein de grâce à cause des œuvres coupables qu'il voyait et entendait. C'est que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les hommes d'impiété pour les châtier au jour du jugement. Et ils seront châtiés. Moi le premier. Et celui qui estime qu'il ne sera pas châtié par Dieu, c'est un imbécile. Il se fait une illusion grossière. Parce qu'il estime miséricorde de Dieu ses caprices. Or, Dieu, dans le mystère de sa miséricorde, c'est pas le mystère de mon caprice, en disant je ne serai pas puni. Oui, par convoitise impure, ils suivent la chair et méprisent la seigneurie absolue de Dieu sur tout. Ah, là, il n'avait même pas besoin de prendre une crosse et une tiare et tout ça. Pas besoin du Vatican, il suffit qu'il parle. On pige, c'est extraordinaire. Tous les papes, c'est comme ça. Audacieux, arrogant, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Vous voyez ? Ils ne craignent pas de blasphémer les gloires. Les anges, monsieur, c'est ridicule, ça n'existe pas. Les anges, bon, c'est ça, blasphémer les gloires. Les attributs divins, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ringard, bourge. C'est l'autre jour, j'ai eu une petite gosse qui avait 17 ans. Oh, vous faites comme ça, vous, ça fait bourge. Je dis, c'est quoi, bourge, c'est quoi? Bourge. Mais c'est bourgeois, quoi. Bon. Bourge. Alors que les anges, quoique supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles devant le Seigneur de jugement calomnieux. Hein, même les anges sont à crainte, même les anges déchus. Le Satan lui-même ne porterait pas, n'oserait pas, à cause de ce qu'il aurait à subir éternellement s'il le faisait, de telles paroles. Mais eux sont comme des animaux sans raison, voués par nature à être pris et détruits. Ils blasphèment ce qu'ils ignorent. De la même destruction, ils seront détruits eux aussi. Subissant l'injustice comme salaire de l'injustice, ils estiment délice la volupté du jour. Ce sont des hommes souillés, flétris. Ils mettent leur volupté à vous tromper. En faisant bonne chère avec vous, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils allègent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont maudits substantiellement. Oh, c'est extraordinaire, quelqu'un qui est impie, c'est-à-dire qui n'a même pas le premier degré d'humilité, qui n'a même pas la crainte de Dieu. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui chérit un salaire d'injustice, c'est-à-dire d'antigrâce. Hein, l'injustice, en termes bibliques, c'est l'antigrâce sanctifiante. Mais qui fut repris de son méfait, une monture sans voix, une ânesse, un âne a été plus intelligent que lui, n'est-ce pas ? Avec une voix humaine, a arrêté la démence de ce faux prophète. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages poussés par un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours gonflés de vide, ils allèchent par les désirs charnels, par les débauches, ceux qui viennent à peine de fuir les gens qui passent leur vie dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, soi-disant, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de ce qui domine sur nous. En effet, si après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau par malheur et sont dominés par malheur encore, avec leur dernière condition est devenue pire que la première. Sachez donc que dans les jours derniers où nous sommes, il vient des railleurs pleins de railleries, guidés par leurs passions. Ils diront : mais où est la promesse de Dieu ? Et où est Dieu ? Et où est la grâce? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et où est ta Bible? Et où est ton Église? Et où est ta grâce? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au début de la création. Ils ignorent volontairement qu'il y eut autrefois des cieux, voilà les anges, et une terre, voilà ma création, qui, du milieu de l'eau, par le moyen de l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par ces mêmes causes, le monde alors périt inondé par l'eau, la rédemption, par les torrents de grâce du Christ. Ils ignorent tout ça. Mais les cieux et la terre d'aujourd'hui, la même parole les a mis de côté et en réserve pour le feu de la glorification, hein, en vue du jour du jugement et pour la ruine des hommes plongés dans l'impiété. Oui, ça, c'est la crainte de Dieu. Au minimum, avoir cette crainte de Dieu, ça, pour saint Benoît, c'est très important. Pour nous aussi, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est parfaitement la vérité que si nous échappons de nos pauvretés pour rentrer dans des choses vaines, secondaires, inutiles, nos soi-disant qualités, Moi, je fais ma vie, indépendamment des autres, je les laisse tranquilles. Moi, je fais ma religion, indépendamment du pape, je le laisse tranquille. Moi, j'ai une vie de drame, terrible. Moi, je veux me réaliser dans des pensées positives, parce que j'en ai assez. J'ai donné, j'ai déjà donné, maintenant repos, positivité, 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 antichrist. Parce que je roule sur ces deux roues du vélo et que je pédale continuellement, je rentre dans l'orgueil. Et l'orgueil fait que je deviens plus un être humain qui vit dans l'instant présent. Alors je vis dans les nostalgies. Dans une mystique de la nostalgie. Ou bien je vis dans l'avenir, je fais des projets, je fais plein de projets. Je
m'enferme dans mon imaginaire, mes pulsions, mon angoisse et ma peur, ou bien je fais des projets. La volonté de puissance. Je deviens l'artiste, le génie de ce monde. C'est extraordinaire, ça. Au lieu, tout simplement, d'être pauvre, petit, simple, soi-même, saint, immaculé en sa présence, devant sa face. Mais oui, mais si je continue à jouer du vélo, mais vous rendez compte, le Seigneur, bien sûr, il va dire, il va m'atteindre quand même, mais il faudra revenir, je vous signale. Il faudra revenir. Pédale toujours. Il faudra revenir. Il faut avoir la crainte de Dieu, la crainte servile, vous voyez. La crainte de l'enfer, oui, tout à fait. Mais cette crainte de l'enfer, une fois qu'on a trouvé le premier degré d'humilité, elle va disparaître. Elle va laisser la place à la crainte de Dieu, qui est une crainte aimante, une crainte chaste. Parce qu'une fois qu'on aura trouvé le trésor de l'amour de Dieu, le trésor réel de l'amour de Dieu, cette prescription impérative d'amour, cette force inépuisable d'amour au fond de nous, cette source inépuisable dans laquelle on peut puiser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Une fois qu'on l'aura trouvé, eh bien, on aura peur de la quitter. On aura peur de l'abîmer. Et c'est ça le premier degré d'humilité, dans la crainte de se séparer d'un trésor aussi profond, aussi vrai, aussi concret, aussi associé intimement à ce que je suis. Concrètement, à ma pauvreté, à la pauvreté de ceux qui étaient mis proches de moi. Cet amour inépuisable, j'ai peur de le perdre. Et c'est ainsi qu'il y a des versets dans l'Écriture qui nous disent que la crainte, celui qui est dans la grâce de Dieu n'est plus dans la crainte, parce qu'il n'est plus dans la crainte, donc de l'enfer, bien sûr. Mais celui qui n'est pas dans la grâce de Dieu et qui n'est pas dans la crainte de l'enfer, c'est le plus malheureux des hommes. C'est à celui à qui le malheur est promis pour l'éternité. Mais il faut passer par ça. Bon, je voulais donc terminer par un petit texte que j'ai déjà lu à certains d'entre vous et qui est donné, vous savez, dans ce livre dont je ne me rappelle plus le titre, « Les âmes du purgatoire », je crois. De Mgr Brincard, là, hein, bon. Donc, c'est une petite illustration. Je ne dis pas que Mgr Brincard est un docteur de l'Église, il n'est toujours pas docteur de l'Église. Donc, c'est un évêque, tout ça. Bon, il a donné sa bénédiction, et puis, a une parole qui est là, et qui essaye d'établir, d'expliquer, de manifester ce que c'est. Je voudrais le prendre pour essayer d'expliciter ce que c'est que ce premier degré d'humilité. Si quand je prie et que je rentre profondément en moi-même dans ma plus grande pauvreté, dans l'obéissance à la grâce de Dieu qui est cachée très profondément en dessous de tout ce qui m'oppresse, et si je viens habiter là tranquillement dans la gratitude, la louange et l'adoration. L'adoration impliquant donc que je traverse toutes les pauvretés de tous ceux qui sont proches de moi et toutes les pauvretés possibles de toute la création. Une fois que je suis là, je vis d'une adoration religieuse qui implique une espérance dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire dans la crainte, je fais tout pour ne rien perdre de ce trésor de la miséricorde qui m'est donnée, la miséricorde que je me fais à moi-même, miséricorde que Dieu me fait, miséricorde que je vis dans toutes les pauvretés de la création. Et à ce moment-là, je vis ce que vit Saint Michel, archange, cet étonnement vis-à-vis de Dieu, cette admiration. Et j'ai peur de perdre, un tant soit peu, cette tonalité de l'admiration de la miséricorde de Dieu. C'est ce qui se passe pour les âmes du purgatoire, lorsque malheureusement c'est trop tard pour elles, pour pouvoir le vivre dans les mérites de leur pauvreté. C'est
C'est-à-dire, ils vont vivre de l'espérance sans pouvoir augmenter dans l'intensité de la glorification divine, et ceci pour l'éternité. Et voilà la plus grande crainte de Dieu que nous ayons, nous, qui sommes encore dans cette terre, dans le corps mystique de Jésus, c'est précisément de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et d'avoir à terminer notre parcours au purgatoire, non pas parce qu'au purgatoire on va souffrir, certes on va souffrir au purgatoire, mais parce qu'au purgatoire on fera le même parcours, mais sans aucunement, en aucune manière intensifier notre degré de glorification de Dieu et d'obéissance à Dieu. Ce sera simplement une purification. Ce sera sans mérite. Mais ça ne veut pas dire que ce sera sans amour. Ça ne veut pas dire que ce sera sans espérance. Ça ne veut pas dire que ce sera sans grâce. Ce ne sera pas sans progression, sans croissance, sans intensification. Et donc, voyez cette petite à qui le bon Dieu a mis dans l'horizon cette capacité de pouvoir épouser ce que vivaient les âmes du purgatoire dans l'espérance, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. J'aime beaucoup cette description parce que elle me donne quelque chose de l'atmosphère du premier degré d'humilité. Je vous l'ai déjà lu pour ceux qui étaient à Lourdes, mais je vous relis. Il me semblait que la partie intérieure, écoutez bien ça, il me semblait que la partie intérieure de mon âme, oui, parce qu'il y a une partie extérieure de l'âme. Dans mon intériorité la plus profonde, ça reste encore extérieur. Mais la partie intérieure de mon âme, est-ce que vous savez ce que c'est que la partie intérieure de l'âme? La partie intérieure de l'âme. La partie extérieure de l'âme, c'est la partie que j'atteins de mon âme par moi-même. La partie intérieure de mon âme, c'est la partie que Dieu atteint par lui-même. Donc il faut aller au centre même du centre de l'âme. Donc il me semblait que la partie intérieure de mon âme était tout à fait morte. Je dis à peu près morte, hein, parce que je continuais tant bien que mal, plutôt mal que bien, à vaquer à mes occupations. J'avais l'impression de voir mon âme coupée en deux, déchirée. Dieu se laissait encore entrevoir à travers ce voile, vous voyez, de la déchirure, à travers ce voile de lumière dont j'ai parlé. N'étant ni saisi immédiatement, ni possédé par lui, il enflammait mon âme de désirs les plus violents, au point que, dès le milieu de la journée, je dus me reposer sur un lit épuisé, car mon corps ne pouvait pas résister à ces assauts de lumière et d'amour. Mon âme savourait les prémices de cette union future à Dieu. C'était une suavité à la fois si exquise et si douloureuse que j'en perdais connaissance. Mais mon âme, comme jetée dans une fournaise, restait sereine. Elle a dit pacifiée, mais j'ai lu sereine. Ne vous inquiétez pas si je dis. Si un jour vous avez le texte, si vous voyez. Mais il lit. J'ai le droit de hein? D'amour fulgurant qui doit sauter tous les obstacles sans exception dans un oui temporel. Oui, pendant toute la journée, ma mémoire resta comme liée, soumise à cette sécheresse totale, à cette âpreté inouïe, incapable d'autre activité qu'un immense regret de toutes mes fautes. Une sorte de confession intérieure. Voilà ce que je vaux, voilà ce que je vaux. Dans laquelle tous mes péchés m'étaient montrés, révélés, nus. Ah, c'est le contraire du bouddhisme, hein. Mes péchés m'étaient dévoilés lumineusement. L'un après l'autre, et par centaines et par milliers. Et moi, je dirais par milliards. Tous mes péchés, parce que moi, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, mais quelquefois, je reconnais que ce ne soit pas commode de rentrer dans cette... Parce que c'est vrai que c'est ignoble ce qu'on a fait. Pour connaître, c'est pas terrible. C'est humiliant. C'est humiliant. Un après l'autre, par centaines et par milliers, j'ai revu en ce jour ma vie tout entière, jusque dans ses moindres replis, avec ses plus petits manquements, ses fautes graves, ses hésitations, ses complaisances, ses lâchetés. Et à chaque faute, mon âme était comme broyée. Moi, je dirais humiliée. Pauvre. Enfin, elle-même. Je criais intérieurement, « Oh mon Dieu, comment ai-je fait pour avoir si peu souci de ta gloire? Comment ai-je fait pour gaspiller à ce point tout ?» Mon âme restait cependant dans une grande sérénité. C'est ça qui est extraordinaire. La crainte de Dieu, ce n'est pas l'angoisse. Dans une très grande paix. Alors, où est-ce que j'étais? Même si elle était douloureusement écrasée par sa propre pauvreté, je n'avais pas peur d'être objet de la réprobation totale de Dieu. Mais il me paraissait alors que le plus important, c'était que lui seul soit glorifié, même séparé de moi. Vous voyez bien, c'est ça, que le plus important c'était la gloire de Dieu. J'avais une soif dévorante que Dieu soit glorifié. Moi, non, bien sûr, puisque moi, c'est foutu. Mais ma soif, c'était ça, c'est que Dieu soit rempli de gloire. J'avais une soif dévorante de cette gloire. Je désirais rester tout le temps dans cet état de torture. Aussi longtemps qu'il le faudrait, en tout cas, pour que Dieu puisse enfin être glorifié en moi-même, et sans cesse, continuellement, à jamais. Cette grâce profonde de confession intérieure, regarde ce que je vaux, ah, ça me torture, c'est terrible, mais enfin, au moins, je vois que Dieu est rempli de gloire. C'est déjà quelque chose. Oui, cet état de confession intérieure a été un bienfait inouï pour mon âme. Cela s'ajoutait à tout ce qui m'avait été accordé précédemment. Je crois que le Seigneur se réservait de me faire connaître ses états progressivement, de manière successive, parce que la nature humaine, ici-bas, ne peut pas y résister. Tant cette souffrance d'amour est forte, tout au long de la journée, en effet, les défaillances corporelles se succédaient, mais mon âme était immergée dans une paix impossible à décrire. Et la souffrance, même s'il était très vive, enflammée de désir, était paisible et meurtrie tout entière. À chaque visite de l'Immaculée, de la Vierge, dans cet état, des anges, tout le monde angélique suspendu à la pauvreté de l'homme devant Dieu, et des saints, tout entiers aspirés à la glorification de la Jérusalem céleste, j'étais brisé encore plus, humilié encore plus, illuminé encore plus de ma propre honte, pacifiée et souffrante, car elles attisaient le désir qui était en moi et me faisaient contempler encore davantage en eux, cette fois, tout ce qui m'était promis, tout ce à quoi j'aspirais de toutes mes forces de mon âme depuis l'instant où j'existais. Lié dans le pur vouloir divin, mais je restais là, abandonné sereinement à la pure volonté de Dieu, sans hâte ni impatience, désirant brûler uniquement de l'attente de la gloire de Dieu. C'est le seul mot, la seule parole à travers je pourrais formuler cet état dans lequel Dieu m'a mis pour l'éprouver. Il me semblait que toutes les visites célestes me répétaient gloire. Gloire, Dieu est le Saint des Saints, il n'y a que sa gloire, gloire à lui. Alors, mon ange tout flamboyant, mais sévère, me dit avec gravité, tu expérimentes à présent le grand mystère de la purification qui, en quelque sorte, fait l'amour et la crainte de Dieu.
C'est magnifique. M'excuse, mais c'est magnifique.
C'est le premier degré de l'humilité, voyez, c'est de rentrer dans cette crainte de Dieu qui fait que, ah, voilà ce que je vaux. Et heureusement qu'il faut que j'ai ces pauvretés pour voir que je suis dans cet état, ben, de pauvreté, de misère, et j'en suis responsable, c'est ça. Et m'étant ainsi dans l'immense de la présence vivante et créatrice du Père dans l'instant présent, je ne peux pas faire autre chose que de dire que c'est ça, que voilà ce que je vaux, voilà ce que je suis, et d'en souffrir, d'en être meurtri, et de trouver mon bonheur et ma paix dans cette constatation. Le Verbe de Dieu a choisi cet état-là pour créer l'humanité tout entière. Et c'est à cause de cet état-là que Dieu a voulu créer Adam et Ève et toute leur postérité. Ce premier degré d'humilité implique donc la crainte aimante de Dieu, c'est-à-dire le souci efficace d'éviter tout péché désormais, et un sens vécu très profond de la présence paternelle, brûlante, et glorieuse, et lumineuse et omniprésente de Dieu. Ce premier degré doit être le fruit de la méditation constante de ces vérités. Dieu scrute les reins et les cœurs. Dieu scrute mes reins et mes cœurs. Dieu scrute toutes choses à partir de mes reins, de mes entrailles, de mon cœur. Dans le centre intérieur de mon âme spirituelle. Là où s'illumine ma pauvreté qui est mon trésor. Le Seigneur connaît les pensées des hommes. Je serai sans tâche devant lui si je me tiens en garde contre mon iniquité. Par le fait même, ce premier degré d'humilité empêche le chrétien de suivre sa propre volonté. Comme l'ordonne le livre de l'Ecclésiaste, renonce à ta volonté propre. Et dans le Pater, nous demandons que la volonté du Père s'accomplisse en nous. C'est bien de là que nous demandons que la volonté s'accomplisse. Le premier degré d'humilité nous implique donc à obéir avec promptitude à autre chose qu'à notre volonté propre. Et d'avoir qu'une seule peur, c'est que nos actes soient engendrés par une volonté qui vient de nous. Ceci exige la vigilance et l'attention à la présence paternelle de Dieu qui veut originer son propre amour dans mon cœur appauvri. Ce qui exige de se garder radicalement, c'est-à-dire à la racine, de tous les désirs mauvais. Premier degré d'humilité.